Le débat du jour. Adrien Delgrange.
C'est une île qui cristallise les tensions entre Washington et Pékin. Taïwan, environ 23 millions d'habitants. L'île, grande comme à peu près la Suisse, est située à 180 km de la Chine continentale. Et la Chine de Xi Jinping accroît ces derniers temps la pression pour récupérer ce qu'elle considère être sa 23e province. Taïwan, jeune démocratie, elle, se tourne vers les États-Unis pour éventuellement se défendre d'une invasion militaire chinoise. Car l'hypothèse est sur la table, à en croire les mots du président chinois. Alors pourquoi l'île de Taïwan est-elle revendiquée par la Chine? Quel est le statut de Taïwan pour la communauté internationale? Les Américains seraient-ils prêts à s'engager dans une guerre contre la Chine? Et puis, avec quelles conséquences pour la planète? Bref, qui est prêt à mourir pour Taïwan? C'est le débat du jour. Soyez les bienvenus. Avec trois invités, tout d'abord en studio, Laurent Hamelot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More, enseignant à l'Institut d'études des relations internationales et membre du groupe de réflexion Asie 21. Au téléphone avec nous, Marc Julienne, chercheur, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable des activités Chine au Centre Asie de l'IFRI. Et puis Olivier Cadic, bonsoir. Olivier Cadic,
bonsoir.
Vous êtes sénateur représentant les Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, membre du groupe d'échange et d'études Sénat-Taïwan, et vous faisiez partie de la délégation française de parlementaires conduite par Alain Richard et qui s'est rendue à Taïwan début octobre. En guise d'introduction, tout d'abord, analysons avec vous les mots « guerrier » de Xi Jinping à l'égard de Taïwan. Quand le président chinois exhorte son homologue américain Joe Biden à ne pas jouer avec le feu sur la question de Taïwan. Première question avec vous, Marc Julienne, comment vous l'interprétez?
Alors ce discours et ce vocabulaire n'a rien de complètement nouveau. Cela dit, Xi Jinping, le président chinois, a très fortement renforcé son discours, musclé même, je dirais, son discours à l'égard de Taïwan depuis plusieurs années, particulièrement depuis 2017. Et il a non seulement musclé son discours, mais aussi ses actes à travers une coercition très forte, militaire, mais aussi politique et économique à l'égard de l'île de Taïwan. Donc on voit qu'en plus, à chaque fois que cette coercition s'est renforcée de la part de Pékin, de l'autre côté, les États-Unis, mais on pourrait même parler des Européens, ont eux-mêmes renforcé leur soutien à l'égard de Taïwan. Et c'est ce qui a donc créé une sorte de surenchère. On pourrait même presque parler d'escalade quand on voit les événements qu'il y a eu début octobre avec une escalade politique et militaire dans le Détroit. Et donc aujourd'hui, justement, la question qui se pose, c'est est-ce que la doctrine américaine que l'on appelle d'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire le fait que les Américains laissent une zone d'ombre sur le fait qu'ils interviendraient militairement pour aider Taïwan en cas d'invasion chinoise, tend à se réduire comme peau de chagrin.
Pourquoi les États-Unis défendent autant Taïwan? Quel est leur intérêt, Olivier Cadic?
Et en fait, Taïwan est le contre-modèle démocratique chinois à la vision totalitaire du Parti communiste chinois. Donc les Chinois mettent en avant le fait que les droits de l'homme ne sont pas le bon modèle pour assurer le développement humain. Et en fait, Taïwan est totalement le contre-modèle de ce discours. Et donc, effectivement, Pékin développe un rapport de force pour faire plier Taïwan, puisque les Taïwanais ne se reconnaissent pas dans la Chine, dans le modèle de la Chine communiste. Donc c'est pour ça que les Américains interviennent, multiplient les gestes de soutien, et c'est normal puisque Taïwan est une démocratie, et j'ai pu mesurer, quand je suis allé début octobre, l'enthousiasme pour justement leur démocratie de la part des Taïwanais, comment ils revendiquent la liberté d'expression. Et je trouve que ce que l'on voit aujourd'hui avec le sommet pour la démocratie lancé par Joe Biden
le 9 et 10 décembre, ouais.
Voilà, qui montre où Taïwan est invité mais pas la Chine. C'est un sommet virtuel pour la démocratie. pour montrer que justement nos valeurs sont une réponse, et assurément l'organisation qui est en train d'être mise en place est une réponse aux routes de la soie, montrer qu'effectivement il faut défendre Taïwan, que c'est plutôt, on disait qu'on ne lâcherait pas Pékin parce que du fait de son marché, en fait l'Occident, l'Europe, les États-Unis, les droits de l'homme lâchent plutôt Pékin que Taïwan.
Alors si les séparatistes à Taïwan nous provoquent, nous forcent la main, voire franchissent la ligne rouge, nous devrons alors prendre des mesures décisives, met en garde encore le président chinois. Laurent Hamelot, pourquoi la Chine ne laisse pas tranquille Taïwan ?
Taïwan, pour la Chine, c'est une province rebelle. Donc c'est une nécessité historiquement pour la Chine de récupérer, de réunifier son territoire en réintégrant donc l'île de Formose à la Chine, à la Grande Chine. Mais au-delà de cette dimension strictement intérieure et à caractère politique, il y a notamment, en particulier, une dimension stratégique, à savoir l'idée qu'on développe de plus en plus, à savoir faire sauter le verrou chinois, faire sauter le verrou taïwanais.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, Taïwan, de par sa position géographique, se situe au cœur de l'architecture de sécurité américaine dans la région, avec la Corée du Sud, le Japon et au sud, l'archipel des Philippines. Et donc, en fait, le fait de pouvoir récupérer Taïwan permettrait justement aux Chinois de couper cette continuité géographique entre le Japon et l'archipel des Philippines, d'une part. D'autre part, lui permettrait d'avoir un accès direct à l'océan Pacifique et permettrait surtout de disposer de bases qui permettraient de pouvoir faire sortir ses porte-avions, enfin en particulier ses sous-marins, sans devoir être enclavés dans les mers de Chine, où leur sortie est beaucoup plus compliquée, et surtout leur capacité des puissances occidentales, qu'elles soient américaines ou françaises, voire autres, à détecter ces sous-marins serait beaucoup plus aisée. Et là, il y a une véritable réflexion à avoir sur la capacité de la Chine à se projeter hors des mers de Chine, et donc de cet espace qui est en partie enclavé.
Par quoi passent les menaces chinoises à l'égard de Taïwan ? Je pense notamment aux intrusions d'avions, Laurent Hamelot.
Alors les intrusions, en fait, elles se passent à la fois sur le plan maritime, naval, à savoir des intrusions ou une proximité des zones économiques exclusives, voire au-delà, et une intrusion par voie aérienne en direction dans la zone d'identification aérienne de défense. Et ça, c'est une vraie question. Parce que à partir du moment où ces incursions se font de jour, la question est relativement facile à identifier. Par contre, lorsque celles-ci peuvent s'effectuer en soirée ou éventuellement la nuit, la question est beaucoup plus compliquée à gérer, à interpréter et éventuellement à traiter.
Et d'ailleurs, d'où une peur, hein, une appréhension là, des Taïwanais. Olivier Cadic, vous vous en êtes rendu compte là sur place lors de votre dernier voyage ?
Mais en fait, si vous voulez, la difficulté, c'est on regarde les intrusions des avions, mais la réalité, c'est que Taïwan subit des milliers d'attaques cyber quotidiennes venant de la Chine. Donc la question, vous avez la partie émergée de l'iceberg, ce que vous voyez avec, par exemple, des avions survolés ou des bateaux, des navires dans la mer venir être un peu menaçants. Mais la réalité, c'est que le conflit a déjà débuté. Il n'y a plus de déclaration de guerre depuis 1982 au niveau international. La dernière fois, c'était pour la guerre des Malouines par l'Angleterre à l'Argentine. Aujourd'hui, les attaques prennent déjà forme. Il y a une guerre hybride qui est déclenchée. Donc, et ça vaut aussi par les fake news. J'ai rencontré plusieurs personnalités à Taïwan qui m'ont expliqué comment ils étaient confrontés justement à ces attaques, ces fake news, et comment ils luttaient contre ces fake news. Donc la réalité, en fait, c'est que la bataille a déjà débuté.
Alors, sur Internet, il paraît-il que sur place, les Taïwanais repèrent aussi déjà les abris souterrains de Taipei, la capitale, en prévision d'une éventuelle attaque aérienne. Olivier Cadic.
Ils ont aujourd'hui déjà, puisque le conflit a démarré, puisqu'ils ont tenté à chaque fois d'intervenir sur l'élection à Taïwan pour changer le résultat. Et ils ont, dans le domaine des fake news, par exemple, ils ont développé une capacité de réaction où la communauté est prise en compte avec des mots qui expliquent en 200 mots la fake news qui arrive de la Chine pour que tout le monde la comprenne bien. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde s'est uni pour défendre sa démocratie. C'est ça qui est vraiment fascinant quand vous allez à Taïwan, c'est de voir combien les gens étaient enthousiastes. À chaque fois, ils venaient vers moi pour justement défendre ce modèle qui est un modèle démocratique. Et ça doit nous réveiller. Ça doit nous faire prendre conscience que nous aussi, nous sommes sur la liste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Taïwan, c'est le premier de cordée. C'est celui qui est en première ligne. Mais derrière, si Taïwan tombe, il y aura d'autres pays qui se retrouveront en première ligne. Et nous sommes sur la liste aussi. Donc, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la défense de nos valeurs, de la démocratie. Et c'est bien ce que aujourd'hui Taïwan illustre dans sa réponse face à l'agression.
Marc Julien, sur ce point-là, Taïwan, Chine, c'est aussi donc deux modèles de société qui s'opposent. Retourner dans le giron chinois serait un recul là pour les Taïwanais.
Oui, bien sûr, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit et c'est ce que j'appelais la coercition politique un peu plus tôt. Effectivement, en fait, les Taïwanais font déjà face à une ingérence, particulièrement sur les réseaux, très importante, qui s'est amplifiée lors des campagnes, des deux dernières campagnes présidentielles. Et c'est vrai que la méthodologie que met en place le gouvernement taïwanais est très intelligente, très éprouvée. Et il serait bon aussi qu'on s'en inspire pour nous-mêmes, et particulièrement dans la période d'élections qui se présente. Effectivement aussi, sur la notion de contre-modèle, je m'inscris également dans cette ligne-là. Mais je dirais, pas en contradiction, mais plutôt de manière complémentaire avec cette idée de contre-modèle, je voudrais aussi dire que pour les États-Unis et symétriquement pour la Chine, Taïwan a aussi une grande importance dans l'architecture de sécurité dans la région. Et donc, il y a certes la question idéologique, la question des droits de l'homme et de la défense de la démocratie, mais il y a aussi des conceptions plus peut-être réalistes des intérêts américains dans la région, ce qui peut pousser à croire, en tout cas c'est mon point de vue, que les États-Unis interviendraient en cas de crise. Et les intérêts d'Américains dans la région, c'est par exemple le réseau d'alliances. Comme ça a été évoqué, les États-Unis ont des alliances stratégiques, donc des traités de défense mutuelle avec la Corée du Sud, avec le Japon. Ils ont aussi des partenariats de défense avec d'autres pays de la région. Et le fait que les États-Unis, quand bien même ils n'ont pas de traité de défense mutuelle avec Taïwan, laissaient tomber Taïwan dans un contexte de crise, ce serait un signal extrêmement dangereux, négatif, envoyé aux autres alliés de la région. Et comme ça a été expliqué aussi sur l'importance de Taïwan comme verrou stratégique de la Chine pour accéder à l'océan Pacifique, il n'est pas sûr que les États-Unis laissent justement cette opportunité pour la Chine qui in fine, serait une plus grande menace pour les États-Unis. Donc c'est pourquoi, pour répondre en tout cas à la question de l'émission, il me semble que les États-Unis ont toutes les raisons, en tout cas, de soutenir Taïwan en cas de crise.
Et alors, sur ce point-là, une réaction, Laurent Hamelot, le rôle des États-Unis en cas de nouvelle guerre avec la Chine.
Effectivement, les États-Unis... la Chine a mis en place une véritable guerre politique au sens large du terme qui revêt tout un ensemble, un spectre très global d'activités, qu'elle soit politique en tant que telle, qu'elle soit juridique, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit informatique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit psychologique ou plus, beaucoup plus hard, c'est la manière. Les Américains, leur côté, effectivement, voient dans Taïwan bien le contre-modèle de la logique des valeurs illibérales chinoises. Illibérales chinoises qu'on retrouve également en Russie ou en Iran, par exemple. Et donc, en parallèle à cela, les Américains ont mis en place, restructurent progressivement leur appareil de défense, leur appareil de sécurité. Les alliances restent ce qu'elles sont. l'hypothèse d'un rapprochement, enfin d'un rapprochement avec les Philippines devrait leur permettre justement de renforcer leur présence sur place, mais également leur présence dans les dans le Pacifique Centre et dans le Pacifique Sud doivent également leur permettre de renforcer leur présence. Par exemple, l'hypothèse d'un renforcement de leur présence dans les îles Palau, qui est elle-même très proche à la fois de Taïwan et du Japon, constitue un fait marqueur et un élément majeur, en fait, à la fois pour ces trois partenaires, mais également pour les pays de l'Asie du Sud-Est, qui, face à un retrait un petit peu chaotique et interrogatif des Américains en Afghanistan, montrerait justement un retour dans la région et favorable.
Pour défendre Taïwan, Olivier Kadic, pensez-vous que Joe Biden, président américain, irait seul au combat face à la Chine ?
Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, je salue effectivement les déclarations qui ont faites par le président Biden que Anthony Blinken, mais les États-Unis ne sont pas seuls non plus aux côtés de Taïwan. L'Union européenne a fait un grand pas le 21 octobre dernier lorsque le Parlement européen a émis 36 recommandations, dont l'intensification des relations politiques entre l'Union et Taïwan. Il considère, je cite, « L'Union européenne et Taïwan sont des partenaires partageant les mêmes valeurs de liberté, de démocratie, de droits de l'homme et d'état de droit. » Un autre pas en avant significatif a été proposer de modifier le nom du Bureau européen de représentation économique et commerciale à Taïwan en « Bureau de l'Union européenne à Taïwan ». Vous voyez, ce sont des marqueurs forts qui montrent que l'Union européenne se tient maintenant aux côtés de Taïwan. Et dans quelques semaines, la France prendra la présidence française de l'Union européenne. Et donc, nous, ce qu'on a voulu exprimer lorsqu'on est passé, lorsque la délégation sénatoriale est passée, justement début octobre à Taïwan, c'est que il y avait ce message comme quoi Taïwan n'était pas seul. En mai dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité une résolution demandant au gouvernement français d'œuvrer en faveur de la participation de Taïwan à diverses organisations internationales comme l'OMS, Interpol, l'OSCE.
Oui, je vous coupe deux secondes. L'initiative justement française du jour est examinée cet après-midi par les députés français.
C'est ça, donc ça a été adopté à l'unanimité au Sénat. Donc là, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, maintenant, il y a une sorte de consensus au niveau politique sur le sujet. Et les déclarations de Jean-Yves Le Drian, par exemple, montrent aussi sur la Chine-Afrique la semaine dernière, rappellent justement qu'aujourd'hui, nous regardons les yeux grands ouverts ce que fait la Chine, par exemple en Afrique. Et une question que je posais récemment à nos entrepreneurs en Afrique, pouvons-nous accepter de voir nos entreprises européennes mises en concurrence sur les marchés internationaux avec des entreprises chinoises qui pratiquent la corruption? On voit les ravages en Afrique des pratiques chinoises en matière de prêts occultes pour ruiner certains pays afin de pouvoir dicter leur conduite politique. C'est contre ça aujourd'hui que nous voulons lutter. Et donc on voit bien que Taïwan est sur le premier rang, mais qu'aujourd'hui cette politique chinoise qui vise à imposer un modèle totalitaire, aujourd'hui ne peut plus passer, on ne peut plus laisser passer ça. Et c'est pour ça que Taïwan devient aujourd'hui emblématique du combat à mener.
La Chine qui joue souvent la carte économique pour imposer ses valeurs, ses idées, Marc Julien.
Oui, ça c'est vrai que c'est une composante de plus en plus forte de la politique étrangère de la Chine, d'utiliser des leviers économiques pour faire pression sur des pays et en tirer des bénéfices politiques. Alors ça, les pays asiatiques, les voisins de la Chine l'ont expérimenté depuis de nombreuses années, l'Australie aussi très fortement ces derniers temps, et de plus en plus ce sont des pays européens qui font face à ces menaces, qui pour le moment passent rarement à exécution, mais qui sait pour l'avenir. C'est sûr qu'aussi il y a une tendance, comme disait le sénateur Kadic, en Europe, sur le fait qu'il y ait plus en plus d'États membres d'une part, et l'Union européenne dans son ensemble qui renforce leur position, leur discours à l'égard de Taïwan. On a parlé de la résolution du Sénat, les débats qui se sont déroulés aujourd'hui même à l'Assemblée nationale pour que Taïwan puisse être associé à plusieurs institutions internationales. Il y a également aujourd'hui même des députés de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie qui sont actuellement en visite officielle à Taïwan. Et donc toute l'affaire dont on a entendu parler ces derniers temps des relations entre Taïwan et la Lituanie qui ont déclenché l'ire de Pékin, puisque
oui.
La Lituanie a ouvert un bureau de représentants de Taïwan en Lituanie il y a maintenant quelques mois et a renforcé ses liens avec Taïwan.
Tout ça donc, avec des risques de rétorsion pour tous ces pays qui soutiennent aujourd'hui Taïwan.
Oui, c'est ça, avec des risques de rétorsion, mais finalement, la Lituanie semble dire à la Chine qu'en fait, elle n'a pas peur de cette rétorsion. Il faut dire que la Lituanie, contrairement à d'autres pays, peut-être comme l'Allemagne par exemple, est très peu en réalité dépendante de la Chine. Ça, c'est aussi un phénomène nouveau, une sorte de prise de conscience qui arrive progressivement en Europe. Il y a encore quelques mois, quelques années, on était tous persuadés d'être absolument dépendants, pieds et poings liés à la Chine économiquement. En réalité, quand on regarde pays par pays, voire secteur industriel par secteur industriel, la réalité est tout autre. Et donc, il y a de nombreux pays en fait, qui ont fait le calcul et qui comprennent en fait, que la Chine a peu de leviers économiques. Je pense aussi à la Slovaquie, par exemple, ou à la République tchèque, qui ont aussi eu des relations extrêmement difficiles avec la Chine ces derniers temps. Pour la France, par exemple, ça dépend des secteurs industriels. Il y a des secteurs qui vont être très dépendants de la Chine. Mais pour d'autres, par exemple, la Chine n'est que le 7e client de la France, donc le 7e pays vers lequel vont nos exportations. Donc il faut relativiser aussi cette dépendance que l'on a, et en tout cas, voilà, ce sont aujourd'hui plutôt des plus petits pays européens qui sont vent debout aujourd'hui contre Pékin pour et qui n'ont pas peur de ces mesures de rétorsion.
Vous relativisez également cette dépendance à la Chine, Laurent Hamelot ?
Effectivement, il y a une dépendance, mais il y a une dépendance qui est quand même qui est relative, même si effectivement la Chine est le principal partenaire commercial de nombre de pays au monde, notamment en Europe. La Chine est également un pays qui fait peur et qui demande, de par son mode opératoire, de par ses méthodes prédatrices, en tout cas dans le domaine technologique, sur ces méthodes qui sont peu rigoureuses en termes d'éthique des affaires, sur ces méthodes peu orthodoxe en termes de financement des projets et qui endettent une grande partie de ses voisins, enfin de ses partenaires et qui les rendent dépendants, quitte à ce que ceux-ci perdent potentiellement une partie de leur souveraineté du fait de locations à très très longue durée de ports, notamment à Sri Lanka ou ailleurs, pose quand même l'interrogation de ces pratiques et de ces pratiques qui finalement ne sont pas si éloignées des méthodes coloniales qu'ont pu avoir les Européens il y a quelques siècles. Et donc, il y a une véritable question à avoir en la matière sur le modèle chinois et sur sa capacité à promouvoir ce modèle à l'étranger. Mmh. Ce qu'il refuse, mais qu'en fait, ce qu'il pratique. C'est notamment le cas avec la fameuse 5G, le fameux modèle numérique et nouvelle route numérique de la soie.
Sauf que là, dans le cas de Taïwan, pour la première fois, en tout cas pour l'histoire récente de ce pays, là, Xi Jinping brandit la carte militaire. Question un petit peu en l'air, mais à quelle échéance la Chine pourrait-elle envahir Taïwan ? Je vous pose cette question, Olivier Cadic.
Alors, le ministre de la Défense taïwanais, justement, quand nous étions à Taïwan, avait fait une déclaration qui avait beaucoup fait parler en disant qu'en 2025, la Chine aurait les moyens d'envahir Taïwan. Ce qui, là encore, ça ne fait que nous mettre un peu plus de pression, puisque effectivement, ce qu'il faut, c'est voir comment on peut rééquilibrer le rapport de force entre Taïwan et la Chine. Et ça veut dire qu'il faut aussi examiner ce qu'il est nécessaire de faire au niveau militaire. Donc c'est un des grands enjeux pour nous dans les prochains mois. Il a été rappelé tout à l'heure l'action de la Lituanie. Il ne faut pas oublier que la Lituanie a aussi interdit, par exemple, l'utilisation de Huawei à l'aéroport de Vilnius. Elle a bien pointé du doigt, justement, ce que peut faire Huawei, comment ça peut être utilisé.
L'opérateur de téléphone.
L'équipementier. Ouais. Et là, on va voir aussi des choses, à mon avis, dans les prochaines semaines, prochains mois, se développer, puisque effectivement, on sait bien qu'il y a des outils qui sont utilisés pour nous mener une guerre hybride. Voilà, donc les choses sont assez claires aujourd'hui, et c'est maintenant, je pense que tout le monde a ouvert les yeux, il a fallu un moment pour le faire, en clamant que Taïwan est une province intégrante de son pays. Je pense que Xi Jinping est en retard sur l'histoire. La question aujourd'hui, c'est la question aussi du peuple chinois, qui est justement qui a un régime qui l'oppresse, avec un cybermur qui l'enferme. La question va être combien de temps ça va durer, et est-ce que là aussi, on ne peut pas espérer que les choses évoluent en Chine, ce qui fait que si vous voulez que la pression tombe, je pense qu'il faudra que peut-être le régime, on revoit un peu cette question du régime communiste.
Un dernier tour de table avec nos trois invités en direct pour le débat du jour. Pour la France, ce serait un peu trop risqué là, de reconnaître l'indépendance pure et simple de Taïwan, Marc Julienne.
Alors, je crois qu'en fait, c'est même pas la question en réalité, puisque en fait, c'est pas à nous de la reconnaître, c'est à Taïwan et au peuple taïwanais de décider s'ils le reconnaîtront ou pas. Le fait est qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans la politique de la présidente et de l'administration taïwanaise de reconnaître l'indépendance.
C'est dans son programme. C'était dans son programme politique, non ?
Non. Enfin, en réalité, parfois on dit rapidement qu'elle est un pro-indépendante, mais ça fait qu'elle ne l'a jamais déclaré, et qu'en fait, en réalité, il considère l'administration taïwanaise que de facto, ils sont autonomes, ils ont tous les atours d'un État, et donc ils n'ont pas besoin de déclarer cette indépendance. Donc c'est encore moins à la France ou à quelqu'un d'autre d'aller déclarer l'indépendance pour eux. Donc c'est la question de la reconnaissance de l'État taïwanais. Je pense que pour le moment, la position française est constante depuis 1964, c'est de reconnaître c'est de la politique d'une seule Chine. Donc après, il peut y avoir un changement dans cette politique-là. Le fait est aujourd'hui, c'est déjà de maintenir, en tout cas c'est ce que veulent les autorités françaises et européennes, c'est de maintenir le statu quo. Et le statu quo, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il y ait la reconnaissance certes d'une seule Chine, mais un respect du statu quo, notamment de la ligne médiane dans le détroit de Taïwan, c'est-à-dire pas d'action militaire ou autre d'un côté et de l'autre. Et là, pour le moment, en réalité, c'est la Chine qui est en train de repousser, en train de contester ce statu quo par toutes les opérations dont on a parlé, les opérations de guerre informatique, les opérations aériennes, etc. Donc, en fait, ce que l'on demande, ce que beaucoup de pays et d'autorités politiques demandent, c'est avant tout le maintien du statu quo qui est aujourd'hui mis en péril par les actions de Pékin.
Jusqu'où pourrait aller la reconnaissance de la France, Olivier Cadic, à l'égard de Taïwan ?
Ça a été très bien dit. En fait, il faut commencer par la demander de la part de Taïwan. La question a été posée lors de la conférence de presse à Taïwan, et j'avais dit que rien ne s'opposait à ce que Taïwan demande à ce que son bureau de représentation s'appelle bureau de représentation de Taïwan en France. Ça, c'est la décision de Taïwan de faire la demande, et après la France, je dirais le gouvernement français prendra sa décision. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, notre combat, c'est pour faire en sorte que Taïwan participe donc aux enceintes multilatérales comme l'OMS, comme Interpol, comme l'OACI. C'est notre premier combat. Effectivement, c'est pour l'instant, la Chine essaye de tout bloquer, mais la réalité est que Taïwan est autonome. Et donc, je l'avais fait valoir dans l'enceinte du Sénat, quand la Chine a décidé d'imposer des mesures contre 10 Européens en disant qu'ils seraient personnels non migrateurs et toute leur famille et qu'ils ne pourraient pas se rendre en Chine, à Macao et à Hong Kong, j'avais fait remarquer à tout le monde que la Chine n'empêchait pas ces personnalités d'aller à Taïwan, qui était bien une reconnaissance de fait de l'autonomie de l'île et de la souveraineté de Taïwan sur son île.
En quelques mots, juste pour conclure, là, le statu quo actuel joue en faveur de la Chine, Laurent Hamelot ?
Pas nécessairement. Pas nécessairement, dans le sens où le statu quo et la manière dont les Chinois ont tendance à le remettre en question de manière agressive joue en faveur de Taïwan, dans le sens où la population se soude autour de son gouvernement et autour de l'idée d'une indépendance de fait qui devient de plus en plus affirmée au sein de la population. Même au sein du Kuomintang, un certain nombre de débats se font sur la nécessité ou non de revenir au pouvoir et sur la nécessité de, finalement, de se rapprocher de Pékin. Donc il y a vraiment une volonté au sein de la population, de, même pour les Chinois d'origine, de vraiment de reconnaître la spécificité du territoire taïwanais et de son identité.
Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les trois, Laurent Hamelot, Marc Julienne, Olivier Cadic, en direct sur RFI. C'est la fin de cette émission réalisée ce soir par Antonin Dulé, coordination Arnold Assewa, documentation Emmanuel Sevin, rédaction en chef Patrick Adam. À demain.